Très bon réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Benjamin Netanyahou jette l'éponge. Le Premier ministre israélien n'a pas réussi à former une coalition un mois après les élections législatives. Dans ce journal, nous serons en direct de Jérusalem avec notre correspondant Frédéric Mettezo.
Au Canada, des tractations ont vu aussi pour le Premier ministre sortant Justin Trudeau, qui remporte les élections législatives mais devra trouver des alliés à gauche.
Oui, reportage et analyse de notre envoyé spécial à Montréal, Nathanaël Charbonnier, dans un instant. Alors qu'en France, il y a désormais un pôle de gauche qui soutient la majorité présidentielle. Un peu plus de 70 élus, issus pour la plupart du Parti Socialiste. Dans son billet politique à 8h15, Stéphane Robert reviendra sur cette jambe gauche censée faire balancier aux formations politiques de droite qui composent la majorité.
Les agriculteurs appellent à mener des actions devant les préfectures ce matin.
Oui, sur les routes aussi, la FNSEA et les jeunes agriculteurs dénoncent notamment les traités de libre-échange. Anne Lorchouin analysera les raisons de cette colère. C'est donc un constat d'échec pour le Premier ministre israélien de droite, Benjamin Netanyahou. Il l'a reconnu hier soir. Il n'a pas réussi à former une coalition majoritaire au Parlement après un mois de tractations. C'est donc son rival centriste, Benny Gantz, qui aura désormais 28 jours pour tenter de former un gouvernement. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
En direct de Jérusalem pour France Culture, Benny Gantz peut-il réussir là où Benjamin Netanyahou n'a pas réussi, lui, à former de coalition, et quels sont les scénarios possibles ?
Alors, comme toujours ici, Sophie, bien des scénarios sont envisagés et absolument personne ne sait lequel se réalisera. Benny Gantz peut convaincre la droite de faire alliance avec lui en sacrifiant Netanyahou. Il peut aussi constituer un gouvernement minoritaire avec la gauche et les députés arabes, et avec l'abstention bienveillante des députés nationalistes d'Avigdor Lieberman, il pourrait finalement accepter l'union nationale avec Netanyahou, sachant aussi que n'importe quel député désormais peut aller voir le président d'Israël en lui disant « voilà, j'ai une majorité ». En réalité, Benny Gantz a peu de chances de réussir, mais il peut miser sur un changement d'époque, sur la fin des années Bibi au pouvoir sans interruption depuis 2009. Netanyahou n'est jamais apparu aussi faible. C'est la première fois depuis presque 12 ans qu'une autre personnalité que lui est chargée de constituer un gouvernement. Il risque d'être inculpé dans des affaires politico-financières. Il est réputé autoritaire. Il est fâché avec les médias et la justice. Gantz peut donc jouer la carte d'un pouvoir apaisé. Reste le blocage complet et le risque d'une troisième élection en moins d'un an. Ce peut être un argument pour Gantz, car ici, tout le monde en a un peu assez.
Oui, il y a urgence, Frédéric, à résoudre cette crise, tant pour des raisons de politique extérieure que de politique intérieure.
Oui, le contexte régional est difficile avec les tensions autour de l'Iran et le départ américain de Syrie. Et puis à l'intérieur, l'économie israélienne ralentit, prévision de croissance à la baisse et déficit en hausse. Sans oublier les Israéliens d'extrême droite qui multiplient les violences. La semaine dernière, des dizaines de jeunes juifs ont agressé des Arabes en plein Jérusalem. Et hier soir, des colons israéliens ont attaqué des militaires israéliens dans le nord de la Cisjordanie.
Merci Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture à Jérusalem. Nous partons maintenant au Canada, alors que les premiers résultats des élections législatives donnent vainqueur le Premier ministre libéral sortant, Justin Trudeau. Nous rejoignons notre envoyé spécial à Montréal, Nathanaël Charbonnier. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors vous avez suivi cette soirée électorale, on écoute tout d'abord votre reportage.
La soirée devait être longue, mais dès 22h08, il y a eu un premier ouf de soulagement dans le camp libéral, c'est-à-dire celui de Justin Trudeau. Ouf de soulagement lorsqu'il a été annoncé à la télé que l'actuel Premier ministre garderait son poste. Ouf de soulagement qui s'est traduit par des cris en forme de « Four more years », 4 ans de plus, 4 ans de Justin Trudeau, et la joie sans fanfare de ses supporters.
Oui, on souffle un peu parce que on ne s'attendait pas à un tel résultat, on pensait qu'on allait être battu et bon, ça semble bon.
Justin Trudeau, vous pensez qu'il a mené la bonne campagne ?
Oui. Il s'est battu jusqu'à la dernière minute et ça donne les résultats que nous voyons.
Une victoire à saluer, mais une victoire par défaut, car si les Canadiens ont décidé de garder leur Premier ministre, c'est surtout parce que le conservateur Andrew Scheer n'a pas su s'imposer. Sans charisme, avec un logiciel assez passéiste, il n'a pas su rallier les jeunes à lui. Et ce matin, Justin Trudeau peut lui dire merci.
Et donc, Nathalie Charbonnier, comment analyser ce résultat? Et surtout, Justin Trudeau aura-t-il les moyens de mettre en œuvre sa politique?
Justin Trudeau n'a pas la majorité, mais l'honneur est sauf, il restera Premier ministre. Il lui fallait 170 sièges pour régner sans partage. Il en aura autour de 160, c'est largement suffisant pour garder son poste. Seul bémol, il devra s'appuyer sur sa gauche pour asseoir son pouvoir. Ici, on ne parle pas de coalition, même si cela y ressemble. Justin Trudeau, qui gagne au terme d'une campagne de 40 jours faite de doutes. Les sondages donnaient les conservateurs et les libéraux au coude à coude avec cette certitude que Justin Trudeau n'avait plus le pouvoir d'attraction qu'il avait il y a 4 ans lorsqu'il a été élu pour la première fois Premier ministre. Il a déçu, la magie a disparu, mais il garde une véritable force de combattant, toujours le sourire aux lèvres et la main en avant à la rencontre des électeurs. Une victoire aussi par défaut, les conservateurs n'ont pas démérité, ils assoient leur pouvoir dans beaucoup de régions rurales, mais ils ratent le coche de la modernité. Leur leader, Andrew Scheer, avec son costume en gentil notable de province, a certes soudé les troupes, mais il a été incapable de s'allier de nouveaux soutiens. Ses positions contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, pour l'industrie du pétrole, l'ont privé du vote des jeunes et par conséquent de la victoire. Justin Trudeau, tout comme son père avant lui, garde le pouvoir. 4 ans de plus, rendez-vous maintenant en 2023.
Merci Nathanaël Charbonnier à Montréal pour France Culture avec les moyens techniques de Julien Quérou.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont dans les matins. Une flambée de violence en Bolivie. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à l'annonce des résultats qui donnent finalement gagnant Evo Morales dès le premier tour.
Oui, le président sortant et dans plusieurs villes du pays, la tension est montée très fortement cette nuit. Les opposants dénoncent une fraude massive. À Sucre, la capitale constitutionnelle, les manifestants ont mis le feu à la cour électorale. Les précisions en Bolivie d'Alice Campagnol.
La colère ne cesse de monter en Bolivie alors que dimanche soir, les résultats partiels laissaient supposer un ballotage. Retournement de situation hier, Evo Morales l'emporterait au premier tour avec 46,8% des voix, plus de 10 points au-dessus de son principal rival, Carlos Mesa. Les opposants à Evo Morales dénoncent une fraude électorale et sont descendus dans la rue pour défendre, disent-ils, la démocratie.
En réalité, c'est Carlos Mesa qui a gagné. Tous les décomptes le prouvent. Mais la Cour électorale est en train de falsifier la vérité, de montrer d'autres chiffres selon lesquels Evo Morales serait le vainqueur. Mais c'est complètement faux. Il y a eu des fraudes, on en a vu dans tout le pays.
La mission des observateurs électoraux de l'Organisation des États américains a exprimé son étonnement quant au changement inexplicable de la tendance de vote qui ne correspond pas aux résultats de l'enquête faite à la sortie des urnes et qui ne colle pas non plus avec les prévisions de ces mêmes experts. Quant à Carlos Mesa, le principal opposant, lui qui croyait dimanche soir avoir sa place au second tour, a annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas la victoire d'Evo Morales. Selon le candidat, ce résultat a été obtenu par une fraude honteuse et met le pays dans une situation de confrontation insupportable.
Alice Compagnol à La Paz pour France Culture. Le président de la Chambre des communes a dit non hier au Premier ministre britannique. Non à la tenue d'un nouveau débat et d'un vote sollicité par Boris Johnson pour faire adopter son accord pour le Brexit. Alors que le Premier ministre britannique promet toujours une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Cette situation à rebondissements multiples qui laisse les paris ouverts divise profondément au sein des partis politiques. C'est le cas chez les travaillistes où une vingtaine de députés pourraient adopter cet accord. Parmi eux, deux députés de la circonscription de Stoke-on-Trent dans les Midlands. Un revirement qui se retrouve aussi chez les militants et sympathisants du parti dans la même circonscription avec également une profonde lassitude. Cécile de Kervas-Douer rencontrer l'un d'entre eux.
Au bord du lac de Henley, Robert Ingleton profite de sa toute récente retraite. Il a fait toute sa carrière dans l'industrie de la poterie, fleuron de sa région, avant de devoir prendre un petit boulot dans un supermarché lorsque toutes les usines sont parties vers l'Asie.
Bien sûr, le boulot au supermarché n'était pas difficile, mais c'était un vrai changement. Beaucoup d'entre nous étaient des gens très qualifiés dans le métier, des artistes, des photographes, mais plus personne ne travaille dans ce domaine et ils ne sont plus employés comme artistes.
De quoi nourrir une profonde défiance face à la mondialisation chez ce militant de toujours du Parti travailliste.
Oui, j'ai voté pour le Brexit. J'ai toujours été militant travailliste, mais plus maintenant, à cause de leur position sur le Brexit. La raison principale, c'est la question de la souveraineté. J'ai l'impression que nous votons des lois qui sont remises en cause par la Cour européenne de justice. Mais chez mes amis travaillistes, c'est la principale motivation pour rester en Europe, les intérêts et les droits des travailleurs.
L'antan syndicaliste Robert Ingleton ne croit pas du tout que l'Europe puisse améliorer la vie des citoyens de son pays. Et c'est pour cette raison qu'il se dit maintenant sympathisant du parti de Nigel Farage.
Ce type a lutté pour le Brexit pendant 20 ans, alors il donne une impression de cohérence et d'honnêteté, contrairement aux autres politiciens. Comme Jeremy Corbyn chez les travaillistes, qui est devenu contre le Brexit après avoir été pour. Nigel Farage a raison, nous vivons dans un pays de Brexiteurs avec un parlement d'anti-Brexiteurs. Je n'en suis pas certain, il est trop controversé, un peu comme ce que nous avons ici, la Marmite.
Et il rajoute, surtout, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ses positions sur l'immigration.
Cécile de Kervas-Doué, dernier round pour Boris Johnson aujourd'hui. Après le refus hier, le Premier ministre britannique va une nouvelle fois tenter cet après-midi de faire adopter par les députés l'accord qu'il a négocié avec Bruxelles.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Les agriculteurs à nouveau mobilisés aujourd'hui, ils dénoncent notamment les traités de libre-échange.
Oui, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, ils se donnent rendez-vous devant les préfectures ce matin pour interpeller le président Emmanuel Macron après une première mobilisation nationale. C'était le 8 octobre dernier, mobilisation qui avait rassemblé 10 000 agriculteurs, notamment sur les routes, selon le syndicat majoritaire FNSEA. Le malaise est profond et la défiance de plus en plus grande entre les agriculteurs et le gouvernement, Anne-Laure Chouin.
Le lieu choisi est symbolique, les préfectures, c'est-à-dire l'État dans les territoires. Or, c'est bien de l'État que les agriculteurs mobilisés aujourd'hui attendent une réponse et une réponse forte. Hasard du calendrier, cette réponse agricole qui avait été proposée par Emmanuel Macron en début de mandat, la loi issue des États généraux de l'alimentation, a fait l'objet d'un premier bilan. Et comme l'avaient prédit beaucoup d'observateurs du monde agricole, les résultats ne sont pas là, notamment sur la problématique essentielle des agriculteurs, celle du revenu. Un revenu encore beaucoup trop faible pour une profession désormais minoritaire dans la société, y compris dans les espaces où elle travaille. La cristallisation du débat autour des zones sans pesticides est venue illustrer la cassure désormais à l'œuvre entre une société qui voit l'espace rural comme un cadre de vie et des agriculteurs pour qui il est avant tout une ressource économique. Sur ce sujet comme sur celui des traités de commerce internationaux dénoncés par l'ensemble du monde agricole, la réponse politique est peu audible. Comment défendre des normes sanitaires et environnementales élevées pour notre agriculture et permettre dans le même temps l'importation de milliers de tonnes de viande dont on connaît les conditions de production dégradées. Enfin, les agriculteurs ont peur pour l'avenir de leur profession. D'ici 10 ans, c'est la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite. Qui va produire la nourriture française de demain? C'est aussi à cette question que les agriculteurs cherchent une réponse.
Anne-Laure Chouin. Emmanuel Macron, lui, est à Mayotte pour un déplacement de 4 jours qui passera aussi par l'île de la Réunion. Une visite attendue dans ces deux territoires secoués en 2018 par de forts mouvements de contestation populaire. Mayotte fait face à une forte pression migratoire qui fragilise ce département le plus en difficulté d'outre-mer et surtout le plus petit avec ses 374 mètres carrés, Anne Fauquemberg.
Quasiment la moitié des 250 500 habitants du département sont originaires des Comores, en particulier d'Anjouan, l'une des trois grandes îles qui composent cet archipel indépendant, l'un des plus pauvres du monde, à seulement 70 km de Mayotte. Une partie de ces personnes sont arrivées sur de grandes embarcations précaires, les fameuses Kwassa Kwassa, sur lesquelles Emmanuel Macron avait plaisanté au début de son mandat, non sans polémique. Aujourd'hui, le chef de l'État viendra surtout constater les premiers résultats de l'opération lancée en août, baptisé Chicandra, des moyens supplémentaires pour atteindre 25 000 reconduites à la frontière d'ici la fin de l'année. Selon l'Élysée, l'objectif de 22 000 renvois serait atteint contre 15 000 l'an passé à la même période. Pour Tani Mohamed Swahili, sénateur LREM de Mayotte, la lutte contre l'immigration clandestine est devenue centrale. Il rappelle que la maternité du chef-lieu, Mamoudzou, est la plus fréquentée de France, 10 000 naissances par an, l'équivalent d'une salle de classe par jour avec des conséquences inhabituelles pour les enfants.
Les constructions n'ont pas pu suivre et pour essayer de dispenser quand même un enseignement minimal à nos enfants, la même salle de classe est utilisée le matin pour une classe et l'après-midi pour une autre classe. C'est le seul moyen pour l'instant qui a été trouvé pour essayer de s'en sortir.
En son temps, François Hollande avait entamé un plan de construction scolaire. Le gouvernement d'Édouard Philippe poursuit les efforts avec 500 millions d'euros supplémentaires. Mais la départementalisation sera l'affaire de plusieurs quinquennats. Elle est aussi très surveillée par la Cour des comptes qui juge qu'elle a été mal préparée.
Anne Fauquemberg, plus de trois semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, les opérations de dépollution du site démarrent aujourd'hui. Les 1400 fûts endommagés vont être traités sur place à Rouen, alors qu'aujourd'hui le PDG de Lubrizol est entendu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le temps, forte pluie au bord de la Méditerranée aujourd'hui, temps calme et gris sur le nord, plus de lumière cet après-midi, température moyenne comprise ce matin entre 5 et 15 degrés.